Bien, chers amis, nous reprenons donc notre 8-9 en ce début d'année 2014. Et il n'est pas encore trop tard pour présenter tous les vœux du fonds de dotation donc, pour cette année, qui en même temps celle du centenaire de la Grande Guerre. Ça nous retiendra d'ailleurs pour le prochain 8-9, donc, qui aura lieu donc, le 11 mars. Mais aujourd'hui, retour sur autre chose et nous changeons, notre formule habituelle. Jusqu'ici, l'auditeur avait fonctionné avec un invité d'une part et Emmanuel Laurentin d'autre part qui très gentiment assurait au fond la maîtrise de jeu, si je puis dire, pendant le petit déjeuner. Et puis, elle a tant d'autres horaires, par ailleurs, elle est toujours extraordinairement surchargée de travail, puisque sa petite séance, il l'a préparée à partir de 6h du matin dans un petit café qui se trouve dans une rue qui monte en face de l'Élysée. Bon, il y avait forcément une limite à ce dispositif. Et aujourd'hui, c'est pour recevoir Richard Weichmann, et parler de son roman, Les Vivantes. Bien, c'est Jean-Claude Chaud, donc à ma gauche, qui va engager le dialogue avec lui. Alors, c'est la première fois, je crois, que nous mettons sur la table un roman. Donc, Richard n'est pas par ailleurs, il est romancier ici, mais par ailleurs, il y a ton étude, bien sûr, à l'école, anthropologue, psychiatre, psychanalyste. Il a écrit avec Didier Fassin un ouvrage qui a été très remarqué, L'Empire du traumatisme, en 2007. Et le Cambodge, évidemment, lui est cher, parce qu'il dirige un dispositif de consultation psychiatrique pour des réfugiés cambodgiens. Et il est membre de du centre Bofana, donc créé par Ritipan, donc à Phnom Penh, qui réunit les archives audiovisuelles autour du génocide. On pourrait discuter longuement s'il faut parler ou non de génocide, mais ça n'est pas le débat ici. Richard publié, c'était à la fin de 2013, hein, Richard, si je me souviens bien, ce roman, Les Vivantes, qui personnellement m'a beaucoup intéressé. J'ai coordonné toute une série de pages sur lesquelles j'aimerais bien lui poser quelques questions, mais ça n'est pas mon travail aujourd'hui. Et je laisse la parole à Jean-Frédéric, qui va d'abord dire un petit peu dire un certain nombre de choses sur le livre pendant quelques minutes avant d'interroger Richard sur son œuvre. Et puis voilà, on prend le système habituel, une vingtaine de minutes de dialogue entre eux. Ensuite, nous aurons un peu la parole. Et puis, comme d'habitude, à 9h, le couperet tombe. Voilà. Et comme c'est le 21 janvier, vous voyez, ça tombe très bien. Il va être vraiment aiguisé aujourd'hui, le couperet. Allez, Jean-Fred, c'est à toi.
Oui, alors, vous savez que nous sommes, Richard et moi, et Stéphane, chercheurs en sciences sociales, et les chercheurs en sciences sociales se posent tous la même question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a une société humaine plutôt que pas ? Alors, que ce soit les sociologues, les historiens, les juristes, les philosophes, et quels que soient les efforts de réflexivité dont ils sont capables, ils sont tous soumis à la même contrainte, c'est-à-dire le fait que nous sommes tous programmés dans notre expérience sociale, et qu'on peut résumer d'une manière très simple, la société dans laquelle nous vivons est celle d'une garantie assurantielle de chacun par tous sous l'autorité de l'État et à l'abri d'un statut de sujet citoyen. En ce sens, la sécurité sociale accomplit la promesse du triptyque révolutionnaire liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire que nous vivons, nous naissons dans un système de protection généralisée, plus ou moins efficace naturellement, mais qui démontre jour après jour aux individus qui composent la société que vivre en société, c'est la minimisation du risque et une promesse de remédiation aux accidents de l'existence. Et à partir de cette expérience commune, il nous est extrêmement difficile de saisir deux types de réalités humaines. Celle dont je m'occupe dans ma profession d'historien spécialiste des sociétés anciennes. Pourquoi ? Eh bien parce que, en ces temps anciens, le XVIe et XVIIe siècle, la garantie assurantielle n'existait pas comme forme politique. Même si l'économie de la charité ou le patronage clientélaire alimentait des mécanismes de solidarité, mais des mécanismes qui ne se traduisaient pas en termes de droit politique du sujet, et qui ne constituait même pas de puissants obstacles à l'émergence, de puissants obstacles à l'émergence d'une citoyenneté politique. Le clergé et la noblesse on en sut quelque chose entre 1791 et 1794, tu y faisais allusion. Le deuxième type d'expérience que nous avons grand-peine à décrire et analyser sont les phénomènes de violence paroxystique, au cœur desquels la frontière qui sépare le monde des vivants et le monde des morts s'estompe. Le mutisme des survivants déclare le caractère à peu près indicible de ce à quoi ils ont été soumis, et comme vous le savez, ça a été l'œuvre de Lanzmann, a joué un rôle très très important dans cette capacité à faire dire ce qui s'est produit dans le cadre du génocide des Juifs sous le régime nazi. Mais un historien comme Stéphane Audouin-Rouzeau pourrait lui aussi témoigner en historien de la difficulté de faire dire ce qu'a été l'expérience du combat pour les soldats engagés dans la Première Guerre mondiale. Alors Richard a très habilement et très puissamment donné la voix à l'expérience qui ne peut pas se dire, celle du génocide cambodgien. Et il l'a fait à travers un dispositif littéraire, une fiction romanesque, dont seuls les plus bornés des chercheurs en sciences sociales pourraient objecter que ça n'est pas un bon analyseur pour comprendre les sociétés contemporaines. Ce que fait Richard, c'est une fiction qui ne suit absolument pas les pas un peu commodes de l'autofiction qui est si à la mode en France, puisqu'il donne la voix à un personnage, une femme, car c'est l'expérience indissociablement morale et physique, physiologique, des femmes victimes de génocide qui est son sujet. Alors, ce livre ne répond pas à la question du pourquoi, ou plutôt, plus précisément, il ne pose pas la question du pourquoi. Parce que la poser, ça reviendrait à rabattre la monstruosité de ce dont il parle sur une rationalité qu'il refuse d'envisager. Lorsqu'on prête attention à la façon dont le livre est fait, on s'aperçoit que le personnage auquel Rochtman donne sa voix évoque l'histoire du siècle avant le génocide et après qu'elle en a réchappé. Sur la période antérieure, à l'arrivée des Khmers rouges, les humiliations de l'époque coloniale, ou plutôt l'indignation de familles khmères lettrées face à la vulgarité, à l'arrogance et à la condescendance de quelques centaines de colons, est patente, d'autant que, au bout du compte, ces colons se sont montrés absolument incapables de porter secours à qui que ce soit lors de la déferlante qui s'est abattue sur Phnom Penh le 17 avril 1975. Et après la sortie de l'abîme, est esquissé un roman picaresque d'une vie à rebâtir entièrement, loin de tout héroïsme martyrologique, dans les méandres sociaux et administratifs d'un exil en France à la fin du XXe siècle. Dans un cas comme dans l'autre, le registre de narration choisi par Richard est celui du parcours inscrit dans une histoire. Mais il ne s'agit que d'un prologue, celui de la période coloniale, et un épilogue, celui de l'arrivée en France. C'est-à-dire les deux périodes pendant lesquelles la narratrice, ou plutôt la femme narrée, a un langage commun avec nous. Et puis il y a le cœur du livre, où tous les opérateurs du raisonnement des sciences sociales et du mode de narration classique n'ont plus de prise. Abolition du temps, abolition du sens, abolition de la distinction entre les vivants et les morts, abolition de la distinction, au bout du compte, entre le corps des martyrisés et leur esprit, dans une diffraction qui n'est pas sans rappeler les phénomènes que les psychiatres désignent comme dissociation. Vouloir se poser la question du sens, c'est diminuer ses chances, non pas de survivre, mais de survivre un jour de plus, dit la narratrice. Dans cette disparition du temps, du sens et même de l'enveloppe charnelle, y a-t-il quand même quelque chose sur quoi ou à partir de quoi rebâtir une existence pour le monde ? Oui, dit la narratrice de Rechtmann, un jour de survie, c'est une victoire sur eux, c'est-à-dire les hommes en pyjama noir, les Khmers rouges. Un jour de plus et c'est tout. C'est ce que le philosophe Spinoza avait décrit comme le conatus, c'est-à-dire cette impulsion à persévérer dans son être, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, en tant qu'homme ou femme, malgré tout, malgré une intimité quotidienne avec la mort. Mais à quoi bon cette journée supplémentaire si l'horizon du sens a complètement disparu de tout lendemain possible ? Les souvenirs des rizières de la mort contribuent non seulement à nous faire sentir l'abomination du génocide cambodgien, mais elle nous place là où, par exemple, un écrivain comme Tolstoï le faisait dans sa confession, ou à travers le personnage de Lévin, qui est son alter ego dans le roman Anna Karénine, c'est-à-dire on ne peut jamais résoudre la question du « à quoi bon survivre » lorsqu'on sait que l'existence à venir n'est jamais qu'un répit. C'est sans doute une des définitions possibles de notre condition, s'efforcer de continuer à vivre dans une absence de certitude pour les uns, ceux qui ne croient pas, et dans une absence de sens pour les autres, ceux qui croient, et dans une absence de sens pour les autres, ceux qui ne croient pas. La rupture radicale par laquelle nous fait passer Reichmann à travers l'expérience du génocide cambodgien montre que la fiction est sans doute un excellent opérateur pour transmettre ce que historiens, sociologues, philosophes ont tant de mal à exprimer. Notre société de contrôle et de minimisation des risques nous désarme manifestement de notre capacité à imaginer l'ampleur des souffrances que les hommes sont capables de s'infliger. C'est, me semble-t-il, la leçon de ce très beau livre. Et bon, évidemment, la première question qu'on souhaite te poser, c'est au fond, comment est-ce qu'on passe d'une activité de psychiatre à une activité de romancier? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à percoler cette activité de psychiatre pour en faire ce que tu en as fait dans ce livre?
Merci Jean-Fred, merci beaucoup pour ce remarquable commentaire qui me touche beaucoup, parce que comme vous pouvez l'imaginer, c'est un ouvrage qui me touche beaucoup, aussi bien dans la façon que j'ai eu de vouloir l'écrire, que aussi d'un certain nombre de choses que je souhaite pouvoir y dire. Alors comment on passe là-dedans? Ben, je dirais que j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas eu le choix. C'était une nécessité absolue du fait que depuis plus de 20 ans, presque 25 ans, je crois, j'entends ces récits, pas au quotidien, mais enfin deux à trois fois par semaine, ce qui est quand même assez, c'est beaucoup. Et qu'il y a un moment où on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses, comme la Vulgate le dit, qu'on ne peut pas dire. Mais pas qu'on ne peut pas dire parce qu'ils ne sont pas possibles à dire, mais parce qu'on manque des instruments qui permettent de les dire ou qui permettent de les entendre. Il m'est apparu très vite que la fiction, alors que j'aime pas tellement ce terme, mais j'y reviendrai, était le seul moyen de pouvoir dire ce que j'entendais et que je ne retrouvais nulle part ailleurs. Alors pourquoi je dis que je n'aime pas beaucoup le terme de fiction? C'est en fait que, depuis des années que je travaille sur ces questions, aussi bien comme clinicien que comme anthropologue, je me pose la question du témoignage, comme nous tous ici, et je me suis rendu compte d'une certaine façon que selon les époques, et Stéphane en est un l'artisan, hein, pouvoir démontrer cela depuis bien longtemps, eh bien la façon de narrer une expérience se modifie considérablement. On ne narre pas l'histoire qu'on a vécue de la même façon, selon les périodes, selon les contextes, selon la façon qu'on a de pouvoir les recevoir. Ce qui veut donc dire que même dans le récit le plus objectif qui soit d'une histoire de vie vécue par quelqu'un, il y a une mise en forme narrative qui est donc, appelons-le comme un sait, une fiction. C'est-à-dire qu'il y a une fictionnarisation de toute réalité. De ce fait-là, le discours des témoins, ceux qui ont vécu à la première personne les expériences qu'ils relatent, c'est une fiction à laquelle on accorde un surplus de réalité parce que on dit qu'ils l'ont vécu, mais la façon qu'ils l'ont de le narrer, là c'est le clinicien qui prend un peu la parole, bah c'est une tentative d'objectivation de leur propre subjectivité. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose là toujours de très compliqué comme matériel, parce que d'une certaine manière, les gens sont obligés de faire un saut par rapport à eux-mêmes, pour essayer de relater à quelqu'un d'autre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils croient avoir vu. Et on sait très bien que dans ces expériences traumatiques, au bout d'un certain temps, il est très difficile de se remémorer avec précision si c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a reconstruit. Enfin, les éléments qu'on a l'habitude d'utiliser pour caractériser une réalité empirique sont assez défaillants. Donc dans ce contexte-là, le seul récit vrai, finalement, ne pouvait être qu'une fiction. À savoir celui qui prenait la place d'une subjectivité s'énonçant sans le souci de son objectivation. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un narrateur qui ne soit pas en train de dire « elle pense que » ou « ils, les Cambodgiens, pensent ». Il fallait prendre cet artifice qui permettait que quelqu'un s'énonce à la première personne comme on pourrait s'énoncer dans le cabinet d'un clinicien, à dire des choses qui finalement n'auraient ni queue ni tête si on les présentait telles quelles, et qui vont venir traduire une expérience qui est authentique. Toutes les expériences sont authentiques, et je ne suis pas en train de dire que c'est le seul vrai témoignage, je suis juste en train de dire qu'il n'y a pas de vrai témoignage. Il n'y en a pas un seul qui est plus vrai que les autres, et c'est peut-être dans la combinaison de cet ensemble que l'on peut avoir cela. L'autre aspect qui me tenait vraiment à cœur, c'est que, il y a une reconstruction contemporaine aussi autour de deux ou trois notions vis-à-vis de ces grandes catastrophes humaines. La première, c'est l'indicible. J'en dis quelques mots, on ne peut pas dire cette expérience. La seconde, c'est la passivité et la façon dont les gens, finalement, se laissent entraîner dans les méandres de la mort, pourrait-on dire. Et la troisième, c'est l'incommunicabilité. Les trois allant ensemble. Et ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que les trois étaient finalement fausses. L'indicible se dit, mais la plupart du temps, il n'est pas entendu. Il n'est pas entendu parce qu'on a envie, quand on n'a pas vécu ce genre d'expérience, d'entendre ce que l'on croit être la chose que les gens ont vécu. Et les gens racontent ce qu'ils ont vécu la plupart du temps. Mais, vous savez, c'est comme le 11 septembre 2001, où une série de journalistes à la télévision disaient que les personnes les plus traumatisées étaient ceux qui avaient regardé la télévision parce qu'ils voyaient tout. Ils voyaient les avions, ils voyaient les tours, ils voyaient la foule, ils voyaient la poussière. Alors que ceux qui étaient en bas, ils ne savaient pas ce qui se passait. Il y avait juste de la poussière, ils ne savaient pas où ils étaient. Donc finalement, eux ne pouvaient pas avoir la pleine conscience de ce qui se produisait au moment où ça se produisait. Cela pour dire tout simplement que lorsque l'on imagine ce que l'autre a vécu, on est toujours bien loin du compte. Bien loin du compte quand on cherche à comprendre quelle a été la nature de l'expérience. Ce qui veut dire que l'indicible, il se dit. Alors après, il faut lui trouver la forme de représentation pour le dire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, c'est-à-dire que la forme de représentation n'est malheureusement pas le discours académique. Alors, je ne suis pas en train de dénoncer le discours académique, loin de là, puisque je me revendique pleinement de faire partie de ce monde, et j'en suis très heureux, alors vraiment très heureux. Et c'est un univers qui me plaît beaucoup. N'empêche que ce n'est pas parce qu'il me plaît beaucoup qu'on peut tout dire par ces outils-là. Et ça n'invalide absolument pas tout ce qu'on peut dire. Mais il y a un reste. Alors, ce reste, on le jette à la poubelle, ou alors on le traite autrement. J'ai essayé de le traiter autrement. C'est juste un reste supplémentaire. Donc, trouver une modalité de figurer cet indicible. Le deuxième point, et qui me semblait vraiment le plus important peut-être personnellement, c'est ce côté de soumission et de passivité. Or, ce récit, parce que pour moi c'est un récit de résistance de chaque seconde. Mais pas la résistance armée telle qu'on l'imagine, pas la résistance politique avec une prise de conscience qu'il y a nécessité de résistance, mais résistance d'un esprit et d'un corps qui refuse obstinément de se laisser tuer. Alors il y a plein de stratégies pour cela. Et la première et la plus coutumière de ce genre d'expérience qui est malheureusement pas suffisamment relatée, c'est justement ce que tu disais, la dissociation. C'est-à-dire que cette femme va s'inventer une séparation entre elle et son corps, chose totalement impensable chez une Cambodgienne pour laquelle l'idée même d'une séparation entre le corps et l'esprit est impossible. Ça n'existe pas, c'est une représentation que nous avons, et chez les Khmer, cette représentation n'existe pas. Pourtant, ça va être la stratégie qu'elle va opérer pour s'opposer à son véritable ennemi, qui serait son corps, puisqu'elle va se dire, finalement, si je dois mourir, c'est parce que lui va me lâcher. Et si je ne veux pas mourir, alors il faut que je l'aie à l'œil. Et va se mettre en place un dialogue intérieur entre elle et ce corps, qui lui, justement, est le lieu de l'objectivation, si vous voulez, de sa subjectivité, pour résister à son adversaire. Et donc, ce que tu disais très justement, pouvoir dire qu'elle n'a jamais imaginé survivre pour témoigner, juste pour que ses ennemis échouent. Et ça, c'est un truc que j'ai régulièrement entendu et qui est très, très fort. C'est qu'au fond, que chaque seconde gagnée sur l'adversaire est une seconde vraiment de résistance. C'est une seconde de victoire. Et il me semblait vraiment important de pouvoir restituer, cette, dans l'horreur absolue dans laquelle ça se trouve, de pouvoir restituer cette capacité de vivre qui n'est pas de la survivante. Justement. C'est pour ça que le titre, ce n'est pas les survivantes, mais bien les vivantes. C'est comment on passe de la survie à la vie. Et le dernier point que j'évoquais, qui est celui de la communicabilité, eh bien je dirais que, effectivement, je vous remercie, mes amis, d'être là. Vous exprimez clairement que c'est communicable. que ce passage, qui était un pari, il faut le reconnaître, un peu risqué, au sens où je n'étais absolument pas certain de l'accueil qu'il pouvait y avoir dans le monde académique de cette tentative, loin de là. Mais il me semblait, en tous les cas, vraiment nécessaire de le faire, et de le faire d'un point de vue, j'ai essayé d'adopter un point de vue très permanent, c'est-à-dire celui d'une jeune femme cambodgienne, sans qu'on ait jamais besoin de dire qu'elle est cambodgienne. Et un certain nombre de ses réactions sont, à mon sens, des réactions vraiment cambodgiennes, sans le sous-titrage. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, c'est Khmer, là, c'est culturel. Là. On est vraiment dans cet univers. Ce qui fait que parfois, certains lecteurs sont surpris de voir, par exemple, dans la dernière partie, quand elle arrive en France, qu'on ne sait pas si c'est la France, que ça ne représente pas grand-chose et qu'on aurait aimé parfois un sous-titrage pour. Mais ce sous-titrage, il n'est pas possible, puisque j'avais aussi envie de rendre compte de cette expérience tout à fait singulière de quelqu'un qui vient du Cambodge, qui est emmené par avion, qui débarque en France et où ça n'a aucun sens. Comment rendre compte du fait que des choses peuvent ne pas avoir de sens, sans que ça soit dramatique, mais que ça n'a pas de sens. Et cette expérience de non-sens, c'est comment un sujet la saisit. Et là encore, eh bien, seule la fiction permet de le faire. Mais...
Est-ce qu'on pourrait peut-être, juste pour... c'est un passage, cette séparation du corps et de l'esprit m'est paru à un moment extraordinairement fort du roman, et au point que moi qui m'intéresse beaucoup à l'histoire du corps, je me suis demandé si je n'allais pas mettre ce chapitre au programme de mon séminaire, enfin, ça va de circulation, et voilà, c'est alors que je me suis échappé, c'est à ce moment-là, je crois, que je compris que mon combat de tous les jours se déroulerait contre lui. C'était lui mon principal adversaire, c'était lui par ses sensations, ses réactions, ses faiblesses, ses lâchetés, ses hésitations, ses tentations, et surtout par cette absurde volonté de se protéger de la douleur qui finirait par avoir ma peau. C'était des corps comme le sien que j'avais vus le long des routes, dans les marais, des corps démembrés qui avaient perdu leur propriétaire. Voilà, c'est ce moment où il faut, au fond c'est ça, s'affranchir de ce corps qui va...
Et qui est vraiment la dissociation, alors c'est vrai, vous l'avez dit tous les deux, je suis psychiatre, mais je crois qu'il n'y a pas une ligne de psychiatrie dedans. C'est-à-dire que j'ai essayé à aucun moment d'avoir la position du clinicien et de qualifier. Parce que trop souvent, on qualifie les propos pour les rendre intelligibles dans une autre langue. Et que le savoir académique, c'est celui qui permet justement de prendre cette distance, à leur montrer ses culturels, montrer ses psychopathologiques. J'ai voulu faire l'inverse, c'est-à-dire avoir une architecture scientifique qui me permet de poser ce discours, mais de faire disparaître tous les éléments de cette architecture et de ne jamais qualifier.
Ouais, je voulais te poser encore une question sur le premier point de ta réponse, pour que tu ailles un petit peu plus loin, sur une chose, un phénomène que nous constatons du côté des académiques, mais pas seulement, c'est la propension qui existe en France à inventer des complots du silence. C'est-à-dire, le cas le plus classique, c'est de dire, c'est l'idée que les rescapés d'Auschwitz n'ont rien voulu dire pendant 15 ou 20 ans, qui est totalement contraire à l'expérience de ce qui s'est produit, à commencer par à l'hôtel Lutetia au printemps 45. Ou alors l'autre cas qui m'a toujours frappé, c'est l'idée selon laquelle on aurait occulté en France pendant 40 ans le fait que les malades mentaux sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tragédie qui a été dénoncée, qui a été expliquée, qui a été entièrement vidée, en quelque sorte, dès la sortie de la guerre, et qui, simplement, a été recouverte d'oubli. Et 40 ans après, un certain nombre d'historiens ou de politistes en mal de publicité inventent le complot du silence. On nous a toujours caché ceci, cela. Et je pense que c'est une propension qui est assez dramatique pour notre profession. Je veux savoir ce que tu en penses.
Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et cette tendance se marque de nouveau. Quand j'ai commencé mon travail sur les Cambodgiens, et cette idée que les Cambodgiens ne pouvaient rien en dire, qu'ils n'avaient pas la possibilité de prendre la moindre distance par rapport à ça, que ça ne les affectait pas. Au moment des procès, le début des procès, c'était le grand discours de tout un tas d'ONG de dire « Attendez, non, ça, ils n'ont pas ce rapport à la mémoire, ils n'ont pas ce rapport au souvenir, c'est un truc complètement implanté, ça vient de l'Occident, ne faites pas une chose pareille, au nom là d'un relativisme culturel fait pour réifier leur culture. » Moi, je pense que ça a une vraie fonction, d'abord que ça a une vraie fonction politique, c'est-à-dire de, encore une fois, les lieux de domination du savoir, et aussi bien sur l'expérience concentrationnaire, sur l'expérience de la mort, que sur le savoir en général. Et donc, on tient là une possibilité de mainmise sur les témoins, et pour leur apprendre à dire ce qu'il faut dire. Et puis, je dirais qu'il y a aussi une lecture plus d'économie morale, au sens de Didier Fassin, qui est que il y a des époques où on voit des choses, mais ça ne fait pas sens. Tuer des malades mentaux pendant la Seconde Guerre mondiale, ça ne fait pas sens. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas complètement indigné. On est indigné, mais ça ne fait pas sens par rapport à l'histoire de la guerre, je crois. Ça ne fait pas sens par rapport à l'histoire que l'on veut relater de la façon dont l'abomination s'est faite. 20 ou 30 ans plus tard, peut-être que ça devient un élément qui permet de signer l'abomination. Et je crois qu'il y a quelque chose là qui est tout à fait essentiel à saisir, des modes de narration de ce qui est justement indicible. On ne peut pas parler, on ne pouvait pas parler pendant la Seconde Guerre mondiale du traumatisme des soldats. Pas parce qu'on ne voulait pas croire au traumatisme des soldats, simplement parce qu'on pensait qu'un soldat traumatisé, c'était un lâche. Donc si on se met à parler du traumatisme des soldats, à ce moment-là, on le disqualifie. Quand pendant la guerre du Vietnam, on parle du traumatisme des soldats, traumatisme psychique, c'est parce qu'en disant cela, on souligne ce que la guerre est capable de faire à tout le monde. On l'a désindividualisé pour en faire de nouveau un phénomène collectif qui ne devient plus un sens péjoratif. Et là, c'est un changement majeur qui rend visible quelque chose qui, pour être vu, n'avait pas pour autant le sens qu'on va lui donner plus tard. Donc il y a une instrumentalisation politique, j'en suis convaincu, et puis il y a aussi des changements de valeurs morales et d'économie morale. Bah,
comme ça, le problème, il est posé, effectivement. Alors, moi, je surveille l'heure, l'heure passe très vite, comme toujours, surtout sur un sujet comme celui-ci. Donc peut-être qu'on peut maintenant...
Je crois que la mise en fiction, c'est probablement le début de la mémoire. Hein. C'est à partir du moment où la mémoire, ce n'est pas le souvenir de chacun. On est très souvent, et alors là, on aura des positions parfois comparables, parfois distinctes sur la question de la morale et de la mémoire. Mais le processus de mémoire sociale, quelle que soit finalement la position qu'on adopte par rapport à cela, dire c'est bien, c'est pas bien, c'est trop exagéré, c'est pas assez exagéré, moi c'est un phénomène qui m'intéresse, à partir du moment où ça devient une dimension collective. Ce qui emprisonne les individus, c'est lorsque c'est du souvenir singulier, et c'est-à-dire que chaque survivant est le seul détenteur de l'expérience qu'il a vécue, et le seul détenteur du souvenir des morts qu'il a côtoyé. Et cela... c'est pas du tout conforme à l'esprit des sociétés contemporaines. Tu disais, on se pose tous la question, qu'est-ce qui fait lien social? Et dans chaque société, il y a un invariant, c'est le rapport aux morts. L'invariant du rapport aux morts, c'est celui qui fait que les morts réappartiennent à la collectivité. Et qu'on peut aller dormir tranquille quand on a perdu un être cher et que la période du deuil est achevée parce qu'on sait qu'il est quelque part dans l'histoire collective. Lorsqu'il n'est nulle part ailleurs que dans le souvenir de ceux qui restent, là le deuil est impossible et on est dans une situation où l'espace entre les morts et les vivants reste complètement confiné. On le voit très bien avec les disparus. Les disparus en Amérique latine, ça a été quelque chose d'absolument épouvantable. Tout le monde savait que ces disparus étaient morts. Mais comme on ne disait pas qu'ils étaient morts, ils n'étaient toujours pas repris dans l'espace collectif comme des morts. Et donc le seul souvenir de leur existence était porté par ceux qui les connaissaient directement. Et ça, c'est le phénomène de mémorisation, c'est le moment où finalement le destin de tous passe dans l'espace collectif. Tant qu'il n'y a pas ce phénomène-là, eh bien, ce sont les survivants qui portent ce fardeau, et là, il peut y avoir des conséquences psychologiques absolument redoutables. Et la fiction, c'est ce qui va tout à coup faire que l'histoire de ces disparus devient une histoire collective. C'est ce qui va faire que finalement, je vais pouvoir m'identifier à des gens disparus, et en pouvant m'identifier à ces gens-là, je les fais miens comme appartenant au même monde que moi. Et même si les gens vont trouver, comme vous le dites très justement, ce film n'est pas excellent. Eh bien ça, c'est le début de l'histoire, je dirais pour moi, c'est le début de la mémoire, parce qu'il peut y avoir des oppositions, on est contre, donc le phénomène existe. Dès qu'il commence à y avoir de l'opposition, c'est que le phénomène existe. Quand il n'y a même pas d'opposition possible, le phénomène n'existe pas. Et là, il est particulièrement problématique.
Est-ce que ça fait 20 ans que tu travailles sur ces questions, hein,
un peu plus, oui.
Un peu plus. Et alors, je voulais te parler du
23.
Un point intéressant, puisque qui montre que l'objet étant ton objet, si je puis dire, c'est le temps que tu as mis à le faire. Tu aurais pu, après tout, peut-être, tu aurais pu. Quand je dis tu aurais pu, je ne dis pas tu aurais dû. Tu aurais pu. À écrire ce roman plus tôt. Et je me pose la question qui me paraît intéressante pour un analyste aussi, de ton propre délai de latence avant de finalement de décider. Et la question de la décision me paraît intéressante. Tu aurais pu aussi décidé, quitte à l'abandonner, de faire un livre de sciences sociales plus classique à partir de ton expérience, ou un livre de psychiatrie du trauma. Le temps de latence, la décision, les choix, tu pourrais y revenir un peu, je trouve,
oui.
D'un point de vue de l'expérience de celui qui a écrit, je trouve que c'est important, et c'est important pour nous aussi.
Alors, c'est une excellente question. J'ai jamais eu l'intention d'écrire ce livre, jamais. Et je pensais, j'avais écrit pas mal d'articles scientifiques, et je pensais les réunir en un volume pour, voilà, d'articles scientifiques sur le Cambodge, sur le génocide, sur les conséquences psychologiques et anthropologiques. Et puis, à l'époque, l'éditrice que j'avais chez Flammarion m'avait dit, pourquoi t'écris pas aussi, comment t'es rentré là-dedans, ton histoire. C'était, comme tu le disais, l'autofiction dans les sciences sociales était déjà là, en marche. Alors je me suis dit, oui, c'est une bonne idée, et puis j'y suis pas arrivé, tout simplement. Je veux dire, ce jeu qui était moi était juste impossible, ça n'avait pas d'intérêt par rapport au projet que j'avais envie de faire, et surtout, ça ne me libérait pas d'une chose qu'aucun article scientifique ne m'avait aidé à m'en libérer, c'est que j'étais envahi par leurs histoires. C'est-à-dire, j'étais envahi par ces morts. Je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas à ces présences, n'empêche que depuis 20 ans, j'avais l'impression qu'ils étaient là. Il y avait un truc, un poids qui était lourd. Alors, voilà, ayant eu moi-même également des décès dans ma famille, une capacité de comprendre encore plus, peut-être, et de saisir encore plus. Et il y a eu un moment où ça m'a vraiment handicapé. Ça m'a, je voulais arrêter, j'en avais marre. J'avais fait des trucs avec Ritipan, justement, sur Dutch. Prendre des heures et des heures de roche de ce personnage absolument abominable et en même temps extrêmement sympathique qui raconte comment on tue allègrement et tranquillement. Enfin, c'est envahissant, ces choses-là. C'est vraiment envahissant. Et ce livre est venu pour moi, pardonnez-moi, c'est mon autothérapie si vous voulez, mais comme une solution. Ça a été une solution. Et quand je l'ai écrit, j'étais habité. Et pour l'entourage, je peux vous garantir que c'est assez pénible d'être... J'avais déjà écrit des articles scientifiques, des bouquins, je ne suis pas habité de la même manière. Là, j'étais habité, vraiment. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que c'est le moment où on commence à être déshabité n'est pas un vrai soulagement. Il y a une perte, il y a un truc là qui est une sorte de connivence qu'il y avait avec cette chose qui n'existe pas. Donc c'était vraiment devenu une nécessité. Après, alors, est-ce que la nécessité intellectuelle est venue avant ou la nécessité, je ne sais pas, ça c'est le problème des analystes, on mélange tout le temps.
Et est-ce que dans ce passage à la fiction, le fait d'avoir écrit un jeu au féminin était pour vous une difficulté ou une facilité?
Pour moi, ça a été une facilité. Ça a été une facilité parce que justement, je voulais me séparer de toute autofiction. Donc j'avais le sentiment d'être encore plus loin, et surtout j'avais cette possibilité, comme je le disais là, en étant habité, d'aimer le personnage que j'écrivais, que je faisais écrire. Et ça, c'est pour moi, c'est très important, et d'ailleurs, c'est un des éléments de surprise de la réception de ce livre, c'est que j'ai des gens qui me disent, après, c'est quand même un truc assez dur, c'est vraiment un beau livre. Et le signifiant beau m'étonne tout le temps, parce que c'est pas beau, enfin c'est... Mais comme je crois qu'il y a vraiment de l'amour dedans, et que je ne pouvais le faire que précisément parce qu'il faisait une femme s'adresser, c'était beaucoup plus facile. Un jeu masculin, je pense que je n'aurais pas pu me sortir de la place. Et en plus aussi, alors l'autre élément, là il est un petit peu plus analytique quand même, c'est que je crois que le rapport que la femme entretient à son corps, de manière générale, était plus commode pour moi pour décrire ce que j'avais envie de décrire. Et puis aussi parce que, étonnamment, j'ai eu... 3 ou 4 fois plus de femmes patientes que d'hommes, ou en tous les cas, ce sont elles qui m'ont raconté le plus ces histoires-là. Les choses n'ont pas encore été complètement dites, que les comptes n'ont pas été soldés, et en même temps que d'autres réalités ont pris le devant de la scène, parce qu'il y a des réalités très dures qui se passent au Cambodge aujourd'hui. On le voit dans les affrontements qui commencent à y avoir avec le gouvernement, mais aussi dans les spoliations des terres, la façon dont un certain nombre d'ONG ont pris la place des pouvoirs coloniaux précédents et qui sont en train de spolier le pays. Donc est-ce que c'est lié à ces 4 années du régime Khmer Rouge, ou est-ce que c'est une lente poursuite d'un phénomène de domination? Je ne saurais le dire, mais la situation est vraiment dramatique. En même temps, le souvenir du génocide, qui devient de plus en plus fort quand même dans la population, où les gens veulent savoir, est un moyen aussi de reconquérir une sorte d'identité nationale et de passer un témoin entre les générations. Donc, c'est peut-être mon côté optimiste pathologique. Moi, j'ai le sentiment que ça ne peut aller qu'en s'améliorant, parce que c'est vrai qu'il y a une prise de conscience là, assez étonnante, hein, et que je pense que les procès y ont largement contribué à ce que, voilà, on se laisse pas dominer comme ça, on nous laisse pas vivre de la sorte. Les travaux de Hannah Arendt sont essentiels, incontournables et voilà, toujours d'actualité. La banalité du mal, je parle sous contrôle de mes deux amis, c'est une notion qu'elle n'a pas vraiment mis au travail. Elle l'a lancée comme ça, elle n'y est pas vraiment revenue. Voilà, c'est un beau, c'est un beau slogan, mais je ne sais pas quelle extension, plus de l'expérience que j'ai auprès de bourreaux cambodgiens. C'est que la banalité, oui, le mal, non. C'est-à-dire que j'ai absolument pas le sentiment que pour ces gens, la question du mal dans ce qu'ils faisaient, ce soit le moins du monde posé. C'était pas mal, c'était bien. Et c'est pas une abolition de l'idée du mal, puisque quand on écoute Doute, justement, il sait très bien ce qui est mal. C'est pas bien répondre à son chef, c'est de devoir interrompre une communication téléphonique avec son chef parce qu'il a envie d'aller aux toilettes et qu'il le fera pas parce qu'il sait que ça, c'est pas possible, on fait pas des choses pareilles à son chef. Par contre, oui, torturer pour avoir des aveux, ça on fait. Tuer parce qu'il faut le tuer, oui, ça on fait. Donc, c'est pas une distorsion du sens du mal. C'est un déplacement des espèces sur lesquelles ça porte. C'est-à-dire que ceux qui rentrent à S21 sont des gens qui vont mourir. Donc tout ce qui se passe entre le moment où ils rentrent et leur mort est un long processus normal, ordinaire, qui n'est pas particulièrement pensé comme quelque chose de mal. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment ça, ça ne veut pas dire qu'ils apprécient faire ça. Mais ils ne l'apprécient pas pour des raisons morales, ils ne l'apprécient pas pour des raisons technique, je dirais, parce que c'est pas agréable, quoi. C'est un sale boulot. Donc, de ce côté-là, je m'écarte un tout petit peu d'Anna Arendt, mais encore une fois, c'est pas la chose la plus importante chez elle sur la banalité du mal, mais parce que je crois qu'on a mal pris l'idée du mal avec une représentation selon laquelle ces acteurs auraient une conscience que ce qu'ils font est mal et qu'ils doivent s'inventer des processus de mise à distance. Après, les psychanalystes en ont fait des tartines, de déni, de trucs, de machin. Pourquoi ont-ils besoin de dénier quelque chose qu'ils font tous les jours et qu'ils ne cessent de dire, bah oui, on le faisait, voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller inventer un processus de déni là-dessus.
Ça rejoint, je trouve, ce que disait Jean-Frédéric dans son introduction, que je trouvais extrêmement intéressant, c'est notre incapacité à penser cette, non pas cette banalité, mais cette trivialité.
Voilà,
cette
trivialité.
Je pense que c'est ça, il y a une sorte de trivialisation de la violence, de la mise à mort, de la torture, qui n'est pas une banalité. Et comme nous n'arrivons pas à penser que cette trivialisation, comme nous ne voulons pas penser que cette trivialisation est si facile, bien, dans une société comme la nôtre, effectivement, cette société, donc, le système de protection généralisée qu'évoquait Jean-Frédéric Main, nous avons besoin, me semble-t-il, d'inventer effectivement des dispositifs psychologiques que nous projetons sur les bourreaux et qui nous mettent finalement à distance, dans une certaine mesure, qui donnent du sens, comme tu dis. Mais au fond, c'est parce qu'on parle à leur place. Parce qu'on parle à la place des acteurs sociaux. Il suffit d'écouter, effectivement, je suis d'accord avec toi, il suffit de les écouter pour voir que... Voilà, ce sont des dispositifs fictionnels qui viennent de...
Exactement. Et alors moi, le travail des historiens m'intéresse à plus d'un titre là, parce que j'ai quand même l'impression que c'est une conception assez moderne de devoir s'imaginer qu'il faille des ressorts psychologiques particuliers pour franchir cette limite supposée infranchissable, alors que l'histoire montre qu'elle est, à quel point elle est franchissable tout le temps. Voilà.
Nous avons besoin du déniveler.
Voilà.
Mais sur le caractère immédiat, pour, pour revenir à Arendt, quand le journaliste soviétique Vassili Grossman entre dans Treblinka, et c'est le premier à rentrer, c'est les tout premiers à rentrer dans le camp d'extermination, c'est ce bataillon soviétique, et il y a le correspondant de guerre du journal de l'armée qui est là, et bon, il est vrai qu'il est juif, il découvre Treblinka, et le soir même, il écrit une dizaine de pages qui figurent dans son carnet, et sa capacité d'analyse est absolument stupéfiante, parce que il voit les restes de Treblinka et il dit c'est l'enfant monstrueux de la bureaucratie et du sadisme. C'est-à-dire que pour lui, il y a le côté mise à distance, formalisation, administration, déréalisation de la statistique, par exemple, etc. Et aussi une partie de sadisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décharger les bourreaux de leur volonté de participer au meurtre. Et ça, il le fait la nuit même. Le texte est absolument extraordinaire. Ouais, ouais. Parce que nous, évidemment, on travaille 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans après ce genre d'événement. Lui, c'est la nuit. Hein, c'est la nuit.
La déshumanisation, c'est impossible. Antheim l'aurait bien dit, on ne sort pas les gens de l'espèce. La désubjectivation, je m'y oppose aussi. Et ce livre est justement un témoignage qu'on ne peut pas désubjectiver quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire que les bourreaux n'aient pas eu cette intention. Et ce qui ne veut pas dire que l'intention des bourreaux ne soit pas réussie, au sens où, pour eux, ça leur est extrêmement facile de tuer ce qui n'est pas humain. Voilà. Et il faut dissocier, me semble-t-il, dans le processus de déshumanisation, la tentative qui aboutit à la mort, de sa réussite. C'est pour ça que je ne suis pas, par exemple, un grand partisan de la thèse d'Agamben autour de cette idée du témoin primordial et de cette possibilité d'une déshumanisation radicale dans les camps d'extermination, de ceux qui allaient mourir. J'y crois pas, ça. Je crois pas. Je ne crois pas que ce soit un jour possible de le faire. Mais que celui qui a la tentation de le faire y arrive au point d'être capable de tuer sans état d'âme, ça par contre j'en suis convaincu. Et c'est d'ailleurs la seule façon que l'on a de comprendre pourquoi ça ne produit pas d'état d'âme. Pourquoi quand quelqu'un... Alors il y a tout le séquençage du travail, hein, quand quelqu'un rentre à S21, on sait que c'est déjà un cadavre, quand il en sort, on le tue, mais c'est pas le même. C'est pas le même qui est au bout de la chaîne avec le gourdin. De la même manière que le travail du père Desbois sur la Shoah par balle et qui est en train d'exhumer toutes ces traces et tous les discours des gens qui ont été à côté de ces bataillons et qui ont apporté la soupe. Il y a un ordinaire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que cet ordinaire, il est bien accepté. Mais l'autre est d'une altérité radicale. Et ce qui m'intéresse, là, en tant que chercheur, c'est comment on construit ces altérités radicales. Et on n'a pas besoin d'inventer que les gens fassent partie d'un autre monde, qu'ils aient une autre couleur de peau, et c'est en ça que le génocide cambodgien est un phénomène à la fois unique et extrêmement caractéristique. C'est qu'il suffit de définir des catégories dans lesquelles on met les gens, et même s'ils ont la même couleur de peau, ils ont les mêmes origines, ils ont les mêmes familles, ils parlent la même langue, ça devient des autres radicaux, et on peut les tuer comme des autres radicaux. Donc c'est pas un autogénocide, loin de là. Les Khmers rouges n'ont pas tué du même, ils ont tué de l'autre. Ils ont d'abord construit l'autre, et ils l'ont tué après. Et ça, c'est un point qui pour nous est important. Il n'y a pas d'essence de l'altérité. C'est un processus, c'est une altérisation qui amène à ce que quelqu'un en face, un groupe, puisse être considéré à un moment comme suffisamment autre pour qu'il ne suscite pas les émotions, l'empathie et que d'autres, dans le même temps, susciteraient.